With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, ça va?
Hello, vous écoutez Salut ça va, le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement.
Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés.
Rendez-vous sur techcare.co.
Bonne écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Salut ça va.
Nous Bonjour.
Sommes lundi matin quand vous écoutez ce podcast, j'ai l'impression d'être sur France Inter là. À deux doigts d'annoncer la météo et le trafic parisien.
Il est 8h05.
Mais non, nous sommes actuellement sous 60 degrés dans une chambre d'hôtel, mais en très bonne compagnie puisqu'on reçoit Justine à notre micro.
Et bonjour.
Bienvenue sur ce petit podcast. Voilà, on avait très envie de discuter avec toi de plein de sujets très cool puisque nous sommes abonnées toutes les deux.
Oui.
Ouais. Allez.
Et si vous n'êtes pas encore abonnez, vous aurez l'occasion de le faire en regardant les infos de ce podcast et vous aurez toutes les infos sur Justine, mais on va en apprendre un peu plus. Moi, j'ai un petit peu horrible, j'allais dire j'ai un petit peu fouillé ta vie. Au secours. Mais c'est vrai que j'ai vu un petit peu ce que tu avais partagé tout ça et j'ai cru savoir que tu avais une enfance voyageuse.
Oui.
Ouais, avec un papa père au foyer, une maman chef d'entreprise et tout, donc carrément un format familial, j'allais dire.
Configuration
pas
familiale.
Pas un format A4 classique.
Ça, pas format A4, mais du coup pas forcément classique entre guillemets comme on l'entend. Quel souvenir toi t'en gardes de ton enfance et de tout ça?
Très 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 bon souvenir. Franchement, j'ai eu la meilleure des enfances possibles. Non, c'était très très chouette. Moi, j'ai eu mon père à la maison du coup jusqu'à mes 12 ans. Ma mère qui a décidé de monter sa boîte 2 ans avant que je naisse. Et du coup, quand je suis née, mes parents ont mis un contrat en place entre eux deux. Mon père allait arrêter de travailler pour s'occuper de moi et de mon frère qui est venu après. Et ma mère allait donc monter son business en tant que belle et grande businesswoman qu'elle est aujourd'hui. Et non, franchement, c'était très très chouette d'avoir papa à la maison pour tout plein de choses. À l'époque, c'était un petit peu spécial. C'était le seul père à la sortie des écoles. Les nounous le regardaient pas très bien, etc. On est passé d'ailleurs sur des plateaux télé quand j'étais gamine pour parler de ça.
C'est hallucinant quand
tellement à l'époque c'était un délire quoi, papa à la maison.
J'imagine parce que moi je vois Samuel mon mari dans cet ordre qui était papa au foyer tu vois en 2018 déjà au parc et tout, vraiment il était regardé comme un ovni, ou alors il était hyper félicité, c'est comme si c'était un truc de fou alors que t'as genre des millions de femmes qui le font
tous les jours,
voilà, qui sont absolument pas félicitées. Donc j'imagine que toi à ton époque, même si tu n'es pas très vieille, c'est quand même quelque chose d'un peu hors du commun entre guillemets, et du coup ça vous a permis aussi j'imagine ces voyages et tout, d'où ça venait? C'était vraiment une envie familiale.
Parce que du coup, ma maman, en fait, elle a une école de français pour les étrangers. Et du coup, il faut qu'elle aille chercher ses clients un peu partout dans le monde. Donc au début, elle a voyagé sans nous. Et puis après, elle a commencé à nous embarquer un petit peu dans ses voyages. Donc il y a eu beaucoup de Brésil. On a fait l'Indonésie. On a fait vraiment plein de pays absolument magnifiques. Guadeloupe, île Maurice, des trucs de fou, quoi. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé avec mes parents. Et en plus de ça... Mes parents qui ont un hobby qui est un peu spécial, qui est de la fanfare.
Ouais,
et, cool. Et du coup, pareil, on a une grosse bande de potes fanfarons de mes parents qui ont tous eu des enfants. Donc, on est une espèce de communauté un peu spéciale. Et on a beaucoup bougé aussi en camion, du coup, quand j'étais enfant. Au bord de l'Atlantique, plus beaucoup dans le Larzac, Lozère, Montpellier, tout ça.
Ouais.
Le sud, quoi. Voilà.
On adore, représente. Et c'est vrai que quand on est enfant, tu sais, on se dit ah là là, les enfants ont vachement besoin de repères, leur routine, le truc, etc. Mais en fait.
C'était pas le cas, ouais.
Mais ça peut être, tu vois, totalement OK. Et je pense que si t'es entouré de. Mais
ça peut même être
d'amour,
un cadre et un repère.
Oui.
Qui s'établit assez rapidement, finalement.
Oui, non, mais complètement. Mais tu vois, pour le coup, on peut s'imaginer, tu sais, qu'on se dit ah là là, mais
quoi
ça
sert, moi,
j'ai déjà entendu
dire.
À quoi ça sert de voyager avec des si petits enfants, ils s'en souviendront pas et tout. Mais je pense que, je sais pas comment tu le ressens, mais ça imprègne quand même une culture.
bien.
L'ouverture.
Bah, nous, on partait des fois 2 mois. Je loupais l'école pendant 1 mois, 2 mois. C'est ma mère qui me faisait les devoirs ou les trucs. Ouais.
Du coup, tu étais quand même scolarisée dans un.
Ouais, j'étais scolarisée. Mais mes parents, ils m'embarquaient. Enfin, ils nous embarquaient. Ils prévenaient, voilà, pendant 1 mois, on n'est pas là, quoi, en gros. Donc, on faisait 2-3 trucs. Enfin, de l'écriture. Après, j'ai appris des langues aussi, du coup, très vite. Parce que ma mère, elle était très à cheval sur ça. Elle en parle beaucoup. C'est sa passion. Et du coup, dès qu'on allait dans un pays, j'avais tout un carnet de mots avec tout plein de mots du pays. Enfin, ouais. Voilà.
C'est plus motivant, j'imagine, quand t'es dans le pays,
ouais.
De te projeter à vouloir parler la langue.
Ça a plus de sens, j'imagine, carrément.
Que ta prof d'allemand au tableau blanc. Et... ouais, c'est clair.
Non, Arceau.
Et quel rapport, justement, toi, t'as eu avec ta scolarité? Comment t'as vécu à l'école depuis que tu t'en souviens, entre guillemets, donc j'imagine à partir de la primaire?
Moi, j'adore l'école. Ça me manque tous les jours de plus y être. Ouais, franchement, j'adorais ça, j'adore encore ça. Et non, c'était trop trop bien l'école. C'était la folie. Franchement, moi tous les jours, je me levais avec l'envie d'aller à l'école. Et du coup, j'ai pris beaucoup beaucoup au fur et à mesure des années des options, des trucs. J'ai fait un bac franco-anglais. J'ai fait du portugais, de l'allemand, du latin, du grec. J'y suis allée.
Les langues
vraiment,
étaient toujours là.
Les langues toujours là. Et donc ouais, non, mes premiers souvenirs d'école, ils sont bons. Après, j'étais un peu un alien en primaire parce que du coup, j'étais pas souvent. Enfin, il y a des fois où j'étais pas là. Puis quand je revenais, du coup, souvenir du coup quand je suis revenue du Brésil par exemple, mes parents avaient fait un album photo pour que je montre à ma classe et tout, et puis du coup on m'avait donné un peu un surnom de papouasienne, on m'avait dit ouais t'es une papouasienne parce que t'es allée voir les Indiens au
Quel
Brésil, enfin c'était aucun rapport, mais les enfants voilà entre eux, t'avais loupé 2 mois d'école, tu reviens comme une fleur, regardez j'ai mangé des noix de cajou, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et voilà, c'était pas forcément
j'étais
un peu extraterrestre.
La différence est souvent pointée du doigt hyper facilement, dès petit. Hein. On en parle souvent dans ce podcast, mais ça revient vachement au niveau de tous nos invités. Et en fait, je pense que chaque personne, à un moment donné de sa vie, s'est sentie différente pour un truc. Parce qu'en fait, je pense que nous sommes tous différents.
Et tu l'as mal vécu Déjà, est-ce que tu t'es sentie différente? Est-ce que tu as mal vécu cette différence-là ou le fait que ça ait pu être pointé?
Moi, mes parents m'avaient expliqué quand même que voyager comme ça, c'était pas donné à tout le monde, que c'était une chance, que du coup, c'était normal qu'il y avait peut-être certains enfants qui soient un peu jaloux, des gens qui comprennent pas forcément tout ça. Donc non, je l'ai pas mal vécu. Je le comprenais. Après, voilà, j'avais pas beaucoup de copines, copains en primaire. Au collège, non plus. Mais au collège, après, on m'a mis de côté pour d'autres raisons, des différences encore. Parce que du coup, je parlais très fort, je parlais beaucoup. J'étais très... Enfin, comme je suis aujourd'hui, toujours très libérée de la parole. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes, ça passait pas, quoi.
Mais tu vois, je pense qu'il y a un truc de codes sociaux, entre guillemets, de normes. Qui est vachement admis entre guillemets dans notre pays, dans notre façon de faire, surtout quand t'es une femme en plus. J'ai l'impression de dire ça à chaque épisode, mais c'est une réalité. Mais vraiment, le fait de voyager, de voir d'autres cultures, de voir d'autres façons de faire et tout, je pense que ça te fait grandir. Enfin, t'es une certaine forme d'ouverture et de maturité qui fait que tu t'épanouis en tant que toi-même parce que t'as connaissance de tellement de choses que tu peux dire ça, je m'y retrouve, ça, je m'y retrouve pas et tout. Donc t'arrives avec au collège, j'imagine, avec beaucoup de choses qui te déterminent déjà, tu vois, en disant moi je parle fort, moi j'aime être comme ça et voilà ce que j'aime et tout, c'est sacrée période.
Beaucoup de liberté que certains cautionnent pas. T'es trop libre. C'est pas l'âge où on est libre, 13-14 ans. C'est l'âge où tu rentres dans le moule, c'est l'âge où tu dois avoir les mêmes fringues.
Même, enfin, de toute façon, on a peu cette image-là de l'enfant libre. En tout cas, en France, enfin, l'enfant doit obéir. Enfin,
l'école, c'est sérieux.
L'école, c'est des grillages.
De pas s'affirmer.
Ça, en Suisse, ça m'a choquée, par exemple. Ma belle-mère est prof en Suisse et elle me disait, il y a pas de portail.
Non.
J'étais là, pardon.
Non, mais il n'y a qu'en France où vraiment les écoles, c'est des cages. C'est vraiment des cages.
Mais c'est ouf.
C'est un délire.
Enfin, genre, j'étais à Mestel, il n'y a pas de portail. Non,
mais je savais pas. Il n'y a pas de portail.
Je t'assure. Alors que c'est considéré comme un lycée en plus, genre, t'es à risque, enfin, terrible, mais genre, c'est comme ça qu'ils classifient, c'est comme nous en France, on peut avoir. Et c'est vrai que ça m'avait choqué. Je m'étais dit, mais. Et tu vois, alors que bien sûr, c'est vrai qu'on peut se dire qu'au contraire, ça favorise, tu vois, la responsabilité et le fait de dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de portail que je vais me jeter sur la route ou. Voilà, mais ouais, encore une fois, tout est question de culture. Hein,
ouais, c'est ça.
Et de perspective. Oui, toi, t'as connu toujours ça, pourquoi on ferait autrement? Et tu fais autrement ou t'as un avis?
Oui, et puis de la place que l'enfant occupe aussi dans la société. Et je suis pas hyper renseignée peut-être sur la culture suisse ou quoi, tu vois, mais.
Oui, mais même tu regardes les pays du Nord et tout. Enfin,
voilà, on peut faire
un podcast sur le sujet, mais c'est vrai que.
Moi, j'ai fait 1 mois dans une école au Brésil. Il n'y avait pas de fenêtres, c'était tout ouvert. Il y avait des animaux dans la cour. Enfin, c'était la liberté totale. Et je suis retournée à l'école après en France. Et en fait, je me suis levée. Je me souviens de ça. Un jour, je me suis levée pour aller faire pipi, mais sans demander. Et je me suis pris une torgnole de la maîtresse. Genre vraiment
une torgnole
de pas avoir.
Au sens propre.
Non, pas au sens propre, mais en mode, t'as absolument pas le droit de te lever de classe comme
ouais,
ça
attends,
alors que Alors que, enfin, moi, j'avais un peu pris l'habitude de, ben, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais, je me lève, je parle sans lever la main, des trucs comme ça. Ouais.
Mais tu vois, c'est fou parce que en tant qu'adulte, en vrai, on a envie de faire pipi, on va faire pipi,
bah ouais.
On a envie de manger, on mange, enfin, quand on peut, ou alors on est en capacité d'attendre, tu vois. On a envie de boire, ben, en fait, on boit et on demande aux enfants. Alors, mais en même temps, enfin, vu les moyens qu'ils ont, parce que attention, parce que enfin, je veux dire, quand t'as 30 élèves dans la classe, enfin, tu peux pas, c'est impossible. Je veux dire, les moyens ne sont pas là pour faire différemment. Mais on leur demande quand même de se retenir pour faire pipi. De, moi, je sais que j'ai déjà été récupérée par mes parents petites. Je m'étais fait pipi dessus, en fait.
Ouais.
Tu vois, parce que j'avais pas le droit d'aller aux toilettes. Mais, enfin,
mais moi, c'était un des premiers critères de sélection de l'école de Gaspard quand on a fait le tour des écoles. Enfin, c'était lunaire. Je me disais, genre, vraiment. Et du coup, comment ça se passe pour aller faire pipi? Déjà, est-ce qu'ils ont des toilettes individuelles? Ça, c'est un autre sujet, mais au niveau de. Parce que, en fait, c'était, pour moi, c'était aberrant que, en fait, dans les maternelles, dans les collectivités.
Filles, garçons ensemble.
Ouais, mais tu vois, qu'on considère qu'il n'y a pas un truc où, genre, juste, ils ont leur intimité et leur possibilité d'être dans leur intimité, et parce que ça commence hyper tôt. Et juste.
Imagine, tu vas aux toilettes, tu parles à ton voisin.
Mais non, mais c'est ça. Ah, tu vois, et attends, je dis ça, je sais très bien comment ça se passe au bureau, on pisse toute la porte ouverte, mais c'est ok.
Mais c'est consenti,
tu vois ce que je veux dire, on est des adultes. Enfin, voilà. Mais juste ça. Et le fait qu'ils nous disent, ah ben non, nous, voilà, ils ont un collier, alors c'est trop drôle, ils ont un collier, et c'est un collier qu'ils enlèvent pour signifier qu'ils vont aux toilettes, ils le mettent autour de leur cou, ils vont faire pipi, tu vois, en liberté, et c'est juste pour que l'adulte ait un regard pour voir si le collier est revenu, et du coup l'enfant est revenu dans la classe. Bon, bref, c'est leur système, mais c'est ok, du coup ça veut dire que bah, l'enfant peut y aller quand il veut. Mais comme tu dis, c'est voilà, encore une fois, c'est.
Mais ça a dû te faire drôle.
Ouais, ça m'a fait drôle. Il y a plusieurs fois, je me suis retrouvée complètement en décalage avec ce qui se passait dans mes classes, dans mes cours. J'ai beaucoup, beaucoup de réprimandes pour agitation, bavardage, ces trucs-là. J'ai eu un bureau, enfin j'ai eu un bureau collé à la maîtresse toute mon année de CM2, que des trucs comme ça.
Ouais, ouais, et c'est injuste. Enfin, en tant qu'enfant, ça doit paraître tellement injuste parce que toi, t'es dans ton.
Puis ça marque aussi une différence physique. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais auprès des autres enfants.
Ouais.
Quand t'es collé au bureau de la maîtresse, toute ta scolarité, enfin toute ta scolarité, là, je parle vraiment trop loin, mais toute une année, aux yeux des autres, t'es catégorisé déjà, étiqueté comme l'enfant qui,
qui est perturbateur.
Tu vois,
ouais.
C'est une étiquette qu'on te met déjà et qui t'a suivi ou pas du coup?
Un petit peu. Après, au collège, je me suis un petit peu. Non, je me suis pas tant calmée. Non, je me suis calmée, mais mais j'ai quand même toujours gardé ce truc de, en fait, si j'ai envie de dire quelque chose, je vais le dire. Et oui, j'ai eu pas mal de renvois au collège, de classe, de professeurs qui supportaient pas, qui me supportaient pas en fait, qui supportaient pas mon.
Ce que tu représentais, je pense.
La grande gueule. En plus, le pire du coup, c'est que j'étais hyper assidue dans mes études. J'avais des très bonnes notes. J'étais déléguée de classe. J'étais première de ma classe toutes les années. J'ai assisté limite à mon propre conseil de discipline en troisième. Enfin. Non, ça m'a suivi, mais toujours en fait avec cette balance de, en fait, je fais tout comme vous voulez. Juste, il y a quelques fois où je m'oppose. Et non, ça s'est toujours resté, j'avoue.
Ouais, et tu vois, encore aujourd'hui, quelque part, ça guide d'autres, d'autres combats qui font vachement sens pour toi, et plus personne n'est là pour te dire tu vas pas faire pipi.
Ouais,
mais clairement, c'est. Non, je pense que ça faisait sens pour toi. Enfin, tu vois, et c'est fou parce qu'en plus, tu sais, on corrèle vachement ça aux résultats scolaires.
Ouais.
Alors, par exemple, c'est encore plus perturbant pour les profs et tout. Quelqu'un qui. A des bonnes notes, etc., mais qui à un moment donné répond ou a un sens critique ou qui n'est pas d'accord. Ça, c'est, tu vois, c'est un truc.
Mais parce qu'il y a un truc aussi où, pareil, il faut pas généraliser, mais j'imagine qu'en tant que professeur, quand t'es là pour enseigner, pour apporter à des élèves, que t'es un élève qui s'oppose à ce que tu peux lui dire, est-ce que ça vient pas te remettre toi en question, tu vois? En mode.
Oui, tu veux dire dans l'ego, ça
oui,
peut.
Oui, un peu dans.
Ouais, ça peut toucher quelque chose.
C'est une vraie question. Je suis pas du tout en train de dire que ça se passe comme ça pour eux. Ils nous parleraient beaucoup mieux que ce que j'en parlerais moi. Mais j'imagine aussi que tu vois, oui, voilà, que la remise en question peut-être déjà est difficile d'adulte à adulte. Tu vois, reconnaître qu'à un moment donné tu t'es planté ou que la personne en face de toi peut avoir un avis différent. Des fois, c'est,
dans la vie,
compliqué,
c'est compliqué
à tolérer.
Ouais.
D'adulte à adulte. Alors imagine quand c'est un enfant qui te renvoie ça, quoi.
Ouais.
T'es là en mode. Alors.
Ouais, toi, tu sors, en fait, tu me perturbes mon cours.
Sauf que du coup, tu peux faire ça avec un enfant, pas avec un adulte, parce que l'adulte, tu vas pas lui dire, toi, tu sors.
Bah ouais, non.
Voilà.
Bah,
après, ça se retrouve dans le monde du travail et dans la relation des patrons
mais
et tout.
Voilà.
Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours ce problème du rapport de force,
ouais.
Pour lequel on pourrait bien épiloguer. Mais je reviens du coup à cette période, et notamment en période aussi qui contient la puberté. Comment toi, c'était quoi ton rapport au corps à ce moment-là, ces années? Est-ce que c'est des questions que tu te posais ou pas forcément?
Ouais, mais je me suis toujours posé ces questions. Là, pour le coup, je pense que ça vient plus de ma maman qui a toujours été hyper sportive, hyper une alimentation très saine et tout, qui m'a mis la pression très jeune, genre vers 12-13 ans, d'avoir un corps mince. Elle lisait énormément. Après, je peux pas la blâmer, c'est aussi une question de génération, mais qui lisait beaucoup la presse féminine. Qui m'a beaucoup inculqué ce truc de, même gamine, j'avais déjà des magazines un peu en mode comment perdre tes kilos pour l'été, des trucs comme ça. J'ai fait beaucoup de sport. Et ouais, non, franchement, j'ai été assez concernée par mon corps jusqu'à, je pense, à la fin du lycée, à peu près, quand même.
Avec vigilance sur ton poids et tout.
Ouais, vigilance sur mon poids, vigilance sur, sur certaines parties de mon corps, mon ventre, mes bras, mes cuisses, comme toutes les adolescentes, finalement. Ouais, mais avec une idée de perfection et de pression assez intense.
Ouais, pour plaire et pour... Et c'est vrai que la génération encore plus de nos parents a été bercée. Alors là, au niveau des magazines dits féminins, c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui. Mais bon, on sent qu'il y a une certaine prise de conscience parce que je pense que le lectorat, est-ce que ça se dit comme ça, je ne sais pas.
L'audience.
Voilà, l'audience. Tu vois, aussi, s'informe et c'est important. Mais à l'époque, tu regardes des trucs. Moi, je suis retombée sur des trucs même de ma grand-mère et tout. Mais
c'est abusé.
Hallucinant. Et c'est vraiment genre, bonjour, vous êtes une femme objet de désir. On va vous dire exactement comment vous devez, à quoi vous devez ressembler pour plaire. Hein. Même pas à vous-même.
Ouais, non,
même
c'est...
pas à vous-même. Non. Aux autres. Donc,
C'est toujours, qu'est-ce qu'on attend de toi? C'est pas qu'est-ce que toi tu veux dans ta vie, comment tu te sens bien dans ton corps, comment tu pourrais être en équilibre avec tes envies, ta santé,
non,
tout
c'est
ça.
C'est comment correspondre aux critères.
Alors, voilà ce que nous, on pense qu'il
Voici
faudrait
le moule.
Être.
Ouais, non, mais moi c'était compliqué parce que j'ai toujours été un peu ronde, petite, avec des très gros seins. Donc mon corps, je l'ai toujours vu un peu rond. Et même à l'époque où j'avais que 14-15 ans, je me trouvais grosse. C'est horrible, mais à 14-15 ans, ton corps, il n'est pas du tout fini. T'as pas du tout fini de grandir. Donc, comme j'avais cette
gros,
paire
final,
énorme...
Tu vois.
Qui est gros par rapport à qui, par rapport à quoi
Oui, puis je veux dire, on a fait un adjectif qualificatif négatif, alors qu'en fait...
Complètement, c'est juste un adjectif.
Voilà, c'est comme petit,
gros, grand petit,
mince,
non, c'est
maigre,
clair.
Bref.
Et non, j'ai vu la rondeur négativement très très jeune. Et en plus de ça, du coup, j'avais cette poitrine qui était hyper imposante à 15 piges. C'était, en vrai, c'était chaud.
On t'a sexualisé très tôt par
rapport très très vite, très très vite. Après, moi, j'ai eu aussi une vie sexuelle tôt. Par rapport à la majorité des jeunes filles de mon âge, j'avais déjà une vie sexuelle à 15 ans. Et on m'a sexualisée très vite sur le décolleté, sur...
Mais tu t'en es rendu compte sur le moment ou avec le recul
Non, sur le moment, quand t'as des nanas qui viennent dans la cour te dire « Mais toi, tu sais pourquoi les garçons ils te parlent ? C'est parce que t'as des gros seins. » Ou « Ben oui, mais c'est pas parce que t'es jolie, c'est parce que t'as une forte poitrine. Toi, tu peux pas mettre ça, ça fait vulgaire. »
Ah ouais, donc on te ramenait beaucoup
à
ta poitrine.
Ouais,
à ton corps. Comme si,
à mon corps en général.
Ouais, c'était corrélé à ta valeur. Ouais, et en plus au regard des autres, parce qu'en fait on s'intéresse à toi parce que et justement t'as décidé de créer du contenu alors des années plus tard, mais
autour de ça
qui est autour de ça notamment, pas que, mais c'est vrai que t'en parles et c'est hyper important parce que je pense que je regardais même les commentaires que tu pouvais recevoir et tout, il y a des femmes qui n'avaient pas de porte-parole entre guillemets, alors non pas que tu sois porte-parole des femmes à forte poitrine, mais je veux dire
j'accepte le chapeau
titre. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, on le sait hein, dans les réseaux sociaux, dans les représentations, même au-delà des réseaux sociaux, de pouvoir à un moment donné se reconnaître. Enfin, tu vois, là, dans un autre contexte, on a vu, tu vois, les vidéos sur la sortie de la petite sirène avec une héroïne noire de peau. Et vraiment, enfin, tu vois, les petites filles et tout. Et enfin, rien que d'en parler, ça me donne envie de chialer. Je n'ai pas pu regarder la vidéo de la petite fille qui réagissait à ça parce que, enfin, c'est là où on se rend compte de l'importance des représentations.
Ouais, carrément.
Et ton contenu, du coup, bah, il est engagé, mais il est aussi humoristique parce que je crois que ça fait partie de toi, l'humour.
Complètement.
Comment tu définis, toi, ce que tu souhaites partager sur les réseaux?
Moi, je partage du contenu justement à caractère humoristique pour essayer de mieux s'accepter. Donc moi, je me base vraiment sur un truc qui s'appelle l'autodérision, qui est tout con. C'est vraiment de se moquer de soi-même un petit peu pour s'accepter mieux. Et ça marche vachement bien. Et je trouve que ça aide assez aussi facilement les nanas de le faire passer par l'humour plutôt que des injonctions à s'aimer tout de suite, toutes ces choses autour du body positive et tout. Moi, j'adore ce mouvement, j'en suis complètement fan. Mais je veux pas qu'on m'impose d'aimer quoi que ce soit chez moi. Et justement, de rire de ses défauts ou des choses qu'on n'aime pas chez soi, ça permet de les accepter pour moi d'une manière plus douce. que par exemple, enfin, ouais, essayer de tout accepter d'un coup, je pense que c'est pas.
Ouais, bah des fois c'est vrai que t'en parles assez bien, le fait l'injonction à s'aimer, c'est-à-dire qu'on est dans un espèce de, enfin, on contrebalance ce mouvement qui, tu vois, avec qui se veut avec beaucoup de bienveillance, avec le truc de se dire, j'ai la pression de me dire, chaque matin je me lève, je me vois dans le miroir et je dois m'aimer.
Ouais, non.
En fait, c'est terrible, parce que ce n'est pas le cas. Et puis
c'est une autre forme de pression en plus.
Complètement. Ouais, c'est ça. Et puis tu ne t'aimes pas forcément tous les jours, tu vois. Non, c'est...
Oui, et puis en fait, parfois, il n'y a juste pas de jugement à se porter. Ouais. Et puis, je trouve que ce qui est bien aussi, c'est que tu montres ce que c'est l'autodérision. Et en fait, c'est hyper subtil parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, je trouve, confondent malgré elle attention l'autodérision avec l'autodévalorisation.
Ah oui,
c'est une limite qui est très fine, tu vois. Et dans l'autodérision, il y a une forme de... quand même d'acceptation et de rire sincèrement, mais enfin, il y a une forme d'authenticité avec soi-même et de non-jugement, tu vois, que l'auto-dévalorisation n'a pas et qui est rabaissante, etc., etc. Et le contenu que tu proposes, justement, je trouve, met vraiment en avant cette auto-dévalorisation.
Auto-dérision.
Cette auto-dérision, c'est très sensible comme mot, mais donc, ça, je trouve que c'est dur, tu vois.
Et surtout, je trouve que c'est difficile pour une femme d'afficher son humour. Enfin, je trouve.
Complètement.
Tu vois, on l'a vu pendant des années, notamment les débuts de YouTube. Moi, quand j'ai commencé, il y avait Natou, Andy Raconte, voilà, tu vois, alors que. Et qui se faisait carrément harceler. Enfin, c'était hallucinant.
Oui, parce que les femmes ne sont pas drôles.
Voilà,
attention.
Exactement. Alors que les Normannes. voilà, elles sont aussi. Douces, elles doivent pas faire de vagues. Et en fait, alors que
grimaces.
Les Normannes et les Cypriens, enfin, tu vois, voilà. Ouais. Et c'est vrai que j'ai l'impression que. Donc, toi, t'as commencé sur TikTok.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ouais, enfin, j'avais déjà un compte Instagram avec un petit peu de monde que j'avais commencé au lycée parce que je faisais du modèle photo, rien à voir, et que j'ai délaissé après parce que ça m'intéressait plus trop et je m'y retrouvais plus. Et du coup, quand TikTok est arrivé, je me suis dit, vas-y, je vais faire des vidéos marrantes. Et voilà.
Ça, ouais, ça a pris.
Ça a pris
J'ai l'impression que c'est une plateforme qui offre la possibilité aussi
d'être plus authentique pour le coup.
Ouais, je trouve.
Parce que ça manquait. Enfin, moi, c'est ça qui me manquait sur Instagram. C'était ce truc d'authenticité. Et j'avais l'impression, dès que j'essayais d'aller vers de l'authentique ou vers du moi, les gens se barraient. Genre, les gens, ça les intéressait pas finalement de voir le vrai moi. Ils aimaient bien les jolies photos un peu retouchées, un peu bien. Enfin, vraiment les photos parfaites, toutes lisses, toutes belles, quoi. Et du coup, dès que j'essayais d'être un peu authentique, un peu drôle, ça marchait moins. Du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la plateforme sur laquelle faire ça. Et quand il y a eu le confinement, TikTok et tout, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais aller faire mes conneries là-dessus. Et ça a marché.
Mais est-ce que t'as été retoquée sur le fait de faire de l'humour, justement?
Ouais, complètement. Bah oui, parce que comme tu disais, une femme, ça doit être lisse, douce, ça doit pas faire de grimaces, ça doit être. Ça doit pas être gênante. Alors moi, j'ai gêné beaucoup. Je gêne beaucoup.
Ouais, ce truc-là.
T'es gênante. Tu me gênes. Elle est gênante. Elle est pas drôle. Ok. Bon, la majorité de ces commentaires, ils viennent d'hommes. Hein.
Bien sûr.
Pas se mentir.
Ça les renvoie.
Je sais pas pourquoi ça les effraie qu'une femme puisse être se rendre moche entre guillemets guillemets.
Ouais, non, mais c'est hyper intéressant, c'est grave intéressant à analyser, mais c'est le fait que tu puisses à un moment donné genre rire de toi. Est-ce que du coup, t'es dans un truc où tu t'incarnes tellement que du coup, tu n'appartiens plus à. Enfin, du coup, on peut plus trop te.
Mais je pense que ça fait encore partie,
tu vois, des
trucs qu'on n'attend pas d'une femme et que du coup, dès que tu les fais, ça te dérange.
Non,
en fait.
Je comprends, mais tu vois, sur le process, j'aimerais bien analyser le truc en mode, est-ce que c'est une façon de dire, en fait, tu ne représentes plus un objet de désir.
Ouais, c'est ça, comme
tu dois être, comme on a formaté, comme. Parce que, est-ce que l'humour, c'est considéré comme suffisamment sexy et féminin, c'est un peu ce truc.
Ça, et puis surtout, c'est quand même un domaine qui a longtemps été, comme beaucoup de domaines, réservé exclusivement aux hommes, tu vois.
Quand Jim Carrey fait des grimaces, c'est pas gênant.
Oui,
exactement.
Voilà. Mais pour
exactement.
Moi,
voilà,
je l'ai fait,
vois.
Là, ça gêne.
Ouais.
Et ça, vraiment, moi, ça m'a fait mal au début. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils comprennent pas, les gens, que c'est de l'humour, que c'est du dixième degré, que. Parce qu'après, t'as aussi toute la team premier degré qui croit qu'en fait, t'es comme ça tout le temps, mais pas du tout. C'est de la caricature, de la parodie.
Tu te balades comme ça,
du théâtre, quoi. Et quand c'est des hommes qui font ça, typiquement un Jim Carrey qui va faire vraiment grimace sur grimace, ce qui s'est fait connaître grâce à ses têtes complètement déjantées, lui, ça va pas poser de problème. Alors que moi, comme je suis une femme, ben, mon humour est moins bon parce que je passe par des grimaces. En gros, ce qu'on me dit la plupart du temps, c'est les femmes qui ne sont pas drôles font des grimaces. Voilà, ouais. C'est tout un... Tu vois,
ça renvoie encore à l'apparence, en fait.
Ouais, oui, c'est ça.
C'est un cercle sans fin, finalement.
Ouais, c'est formaté, c'est-à-dire que tu rentres pas dans le moule que j'ai défini. En fait, tu es une femme, tu fais des grimaces, tu n'es pas drôle. Waouh, le chemin est... Bonjour, on se connaît. Enfin, tu sais, c'est...
Non, c'est très court, hein.
Ouais,
c'est compliqué.
Il y a un sujet que tu abordes de façon récurrente, bah, concernant ton corps, on en a parlé. C'est la poitrine. Est-ce que pour toi, il y a une volonté de sensibiliser au comportement inadapté et de permettre aux femmes de se libérer aussi vis-à-vis de leur corps?
Ouais, les comportements, pour moi, je peux pas les changer quoi que je fasse, en fait, finalement. Mais par contre, ouais, la vision que chacune a de sa poitrine, ça, je pense que je peux quand même aider certaines nanas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Parce qu'il y a quand même, pas mal de choses qui reviennent. Il y a peu de représentations, comme tu disais. Ouais. Et que je pense que ça fait du bien, en fait, de sentir qu'il y a une autre meuf qui est comme nous, qui a des gros seins, qui sait pas trop quoi en faire certains jours, qui sait pas trop comment s'habiller, qui galère avec les soutiens-gorge, qui galère avec le regard des autres. Et donc, du coup, en fait, c'est juste, je partage les mêmes galères que ces nanas-là. Et au final, ça crée une sororité qui est chouette, qui est intéressante. Et où, en fait, il y a beaucoup... Tu peux vraiment en rire de ce truc-là. Parce que vraiment, c'est une partie de toi. Tu peux pas enlever le matin ou remettre... c'est là tout le temps, tous les jours. Tu peux vraiment en rire. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, quoi.
C'est vraiment toute la question de... Qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je ne peux pas contrôler. Et dans ta démarche, tu as décidé de contrôler ce que tu pouvais contrôler, c'est-à-dire notamment toi, ton acceptation, mais aussi les jeunes femmes et la vision qu'elles pouvaient avoir de leur poitrine. Mais est-ce que toi, du coup, ça t'a permis aussi d'avoir plus de représentation, le fait de toi représenter ça et d'être en lien avec, du coup, des femmes qui pouvaient aussi avoir de fortes poitrines, etc. Est-ce que toi, ça t'a aidé, du coup, de voir que t'étais pas toute seule?
Ouais, carrément. Ma première vidéo sur TikTok qui a parlé de ça, et c'est la première vidéo qui a cartonné sur mon compte, je me suis vraiment sentie je me suis dit waouh, en fait, on est plein. On est hyper nombreuses, mais c'est vrai que c'est pas le truc que tu dis en premier première rencontre. Ouais. Salut, enchantée, je m'appelle Justine, je fais un 100E et toi? Ouais. Voilà, mais non, franchement, ouais, je me suis vraiment sentie entourée, écoutée, et ça, c'était trop cool. Et du coup, en fait, d'avoir plein d'insights de plein de nanas, au final, ça m'a permis de faire plein de vidéos sur le sujet. Et chacune d'entre elles, je sais qu'elles ont très bien marché parce qu'elles ont parlé à plein de meufs, quoi.
Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, tu vois, tu parlais de ton rapport au corps à l'époque et notamment par rapport à ta maman, tout ça. Je crois que je vous ai vu dans vos stories il n'y a pas très longtemps avec ta maman et tout ça. Quel regard elle a aujourd'hui sur ce que tu fais, sur ton contenu et justement sur ton rapport au corps et cette volonté de libérer et de prendre confiance et de rendre aux femmes ce pouvoir de prendre confiance en elles?
Je pense qu'elle est entre deux parce que, comme je disais tout à l'heure, vraiment, générationnellement parlant, on n'est pas du tout... on n'est pas totalement alignés. Donc, elle est entre deux. C'est... une espèce de peur de tu vas te laisser aller parce que du coup tout le monde te dit que t'es super belle comme ça, donc tu vois, il y a un truc un peu nocif, un peu toxique. Et de l'autre côté, il y a cette fierté de quand on est dans la rue et qu'il y a des nanas qui m'arrêtent, qui me disent merci, grâce à toi je me sens mieux comme ça, nanani, et que ma mère elle voit ça, elle peut pas me dire t'es toxique ou tu fais quelque chose qui est pas bon pour les autres. Mais je pense qu'elle a quand même cette crainte de fais attention à toi, fais attention à ce que tu montres, fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, c'est logique.
Mais fais attention, c'est ça, c'est vraiment la peur.
Ouais,
quoi.
C'est une peur qui est complètement irrationnelle. Mais inquiète de quoi? Inquiète que je lui dis, je suis très bien dans mon corps, je me sens totalement bien avec qui je suis aujourd'hui. Au contraire, je me sens limite plus sexy qu'il y a quelques années. Enfin, plein de choses comme ça. Mais elle, pour elle, ça fait pas sens parce que dans sa tête, elle a pas été formatée comme ça, et elle voit le tout début, elle a vu le tout début du body positive, de ces mouvements-là, et elle arrive même pas trop à les kiffer autant que moi je les kiffe.
Ouais, ça fait moins sens pour elle.
C'est dur en plus. Enfin, j'imagine que c'est dur quand toute ta vie, du coup, t'as été abonné à des magazines qui t'ont envoyé ça, ou t'as mis des choses en place, parce que du coup, j'entends qu'elle a peut-être mis aussi beaucoup d'énergie.
Complètement.
En fait, là-dedans, à un moment donné, d'avoir ce truc de te dire. Waouh, toute l'énergie que j'ai perdue à essayer tout ça, alors qu'en fait, il faudrait plutôt mettre de l'énergie, davantage d'énergie dans le fait de s'accepter et d'accepter son corps. Et
de positiver, tout simplement, en fait, et arrêter de se... Enfin, pour moi, c'est ça le body positive, c'est positiver ton corps et arrêter d'être dans la négation, dans le négatif,
dans le contrôle.
Et le positiver son corps, ça passe par 10 000 manières différentes. T'as des meufs qui font de la photo, t'as des mecs qui font du body painting, je sais pas, du maquillage, du sport. T'as des fit girls, des fit boys. T'as des gens qui positivent leur corps de 1000 manières différentes. Et en fait, il n'y a pas qu'une seule façon d'avoir un corps qui nous plaît. Comme on pourrait le croire, bah justement, via des magazines et trucs comme ça, qui nous disent bah, « vous serez heureuse quand vous aurez ce corps-là ». C'est faux, si toute ta vie, t'attends d'avoir tel corps pour vivre, c'est fini.
C'est vrai. Bah, surtout que ça n'arrivera jamais.
Meurs enfin, maintenant, en fait.
Le corps bouge, le corps change, le corps carrément. Vieillit, le corps se forme et se reforme en fonction des événements qu'il vit.
Même les cycles menstruels. Voilà, et puis c'est surtout que ton corps, c'est ta maison à un moment donné, et tu vas vivre avec lui toute ta vie. Et cette relation-là, elle est primordiale parce que aujourd'hui, quand t'as, enfin, ton corps et ton esprit, et on le rappelle souvent, parce que moi, j'ai pas mal de témoignages de personnes qui me disent, je suis vachement informée, j'ai envie de prendre soin de moi, la santé mentale, c'est un sujet qui m'intéresse, tout ça. Mais il y a ce truc par rapport au corps qui est encore hyper présent, et parce que c'est l'apparence et tout. Et en fait, même le mouvement du body positive, moi je leur dis souvent, mais en fait vous n'avez pas besoin d'avoir un corps tu vois, qui est considéré par la société comme gros entre guillemets pour faire partie du mouvement body positive, parce que moi j'ai eu des messages comme ça. En fait, le body positive, ça a été un moment qui a permis une représentation de corps qui n'était pas représenté. Mais tu vois, dans l'épisode qu'on a fait avec Louise, elle parlait de body neutrality, et je trouve que c'est un terme qui était intéressant parce que justement il y a cette espèce de truc de neutralité, de pas encore une fois se focus sur le corps et se focus sur le fait d'être positive et sur le fait d'avoir ce truc du corps au centre, mais juste de c'est ok que ça fluctue, c'est ok que ma relation avec mon corps fluctue, et c'est ok que mon poids fluctue.
Et puis surtout, enfin, la vérité, c'est que même si quand t'es une personne mince, tu ne fais pas du tout face aux mêmes problématiques, parce que en fait, la réalité, c'est que la société prône ce type de corps-là.
Ouais, mais ça va en être d'autres.
En fait, il y en a
t'es
quand même d'autres.
T'es pas féminine parce que
voilà,
les formes,
ça.
T'as pas de poitrine, nanani, ouais. Nanan.
Et puis, c'est d'autres marques, puis c'est toujours des gens qui trouvent toujours des trucs à dire.
Ouais.
C'était trop maigre, on voit trop ci, on voit trop ça, t'es pas assez ceci. Donc en fait, t'es toujours dans un truc de... Ne cherche pas à avoir le corps que les autres attendent, puisque en fait, ça ne fonctionnera jamais, c'est sans fin.
La vie des autres sur nos corps, sur notre corps à nous, faut l'envoyer bien, 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 bien loin, parce qu'il compte pas du tout, finalement. Enfin,
il y a une citation que j'adore qui dit « La vie
des autres, c'est la
vie des autres. » La vie des autres, c'est la vie des autres.
Très souvent, les gens projettent de ouf. Hein.
Aussi.
Je veux dire, si tu en arrives à avoir besoin d'avoir des commentaires sur le corps d'une autre personne, bon, alors, on parle même pas de nous concernant sur les réseaux sociaux, de personnes inconnues et tout, mais même avec tes proches et tout, je veux dire, c'est que ça te bouscule suffisamment dans ta vie pour que tu aies besoin d'aller faire la remarque et tout. Donc, c'est que y a quelque chose qui te dérange bien plus profondément que savoir si j'ai pris 3 kilos, si tu vois, tu trouves que j'ai trop de vergetures, une trop grosse poitrine, ou que je suis trop maigre. Donc après, je pense que il y a des fois des comportements même qui sont inculqués. Enfin, je sais pas comment te dire, mais
c'est ça. Je sais pas si tu te rappelles la fois où ma grand-mère m'a appelée. Ma grand-mère, j'adore ma grand-mère, il y a pas de souci. Et je sais que c'est ma grand-mère, c'est une autre époque.
Ouais, aussi, oui.
Mais elle a vu une vidéo de moi sur Instagram où je parlais d'un sujet psycho, et elle m'a appelée pour me dire sur cette vidéo, cette robe ne te met pas en valeur, on voit trop tes clavicules. Ouais. On est bien d'accord, c'est ça les clavicules. Ouais. Hein, merci.
Attention,
Mathilde,
on
l'anatomie.
Voit un ongle dépassé de ton doigt.
Tes clavicules sont trop
saillantes.
Saillantes, voilà.
Bah attends, je vais les limer, je reviens.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Ça, en fait, je vais pas m'enlever les clavicules.
Oui, bah
et tu vas pas porter un col roulé.
Et du coup, j'étais là en mode ok, c'est même pas sur le contenu de la vidéo, c'était vraiment. Il y avait vraiment cette démarche de je t'appelle pour te faire remarquer ça, tu vois. Et
parce
je pense
qu'il y a une bienveillance derrière.
En mode, comme ça, elle remettra plus cette robe et ça lui ira mieux, tu vois. Donc, mais là, tu te dis. Wow.
Oui, mais c'est ça, c'est ancré. C'est pour ça que, tu vois, des fois, la vie des autres et tout, il sort comme si... Ben, c'est normal, mais tu sais, limite, je prends soin de toi, en fait.
Oui.
Je t'en garde, donc...
C'est un peu comme des cheveux sur la soupe, quoi.
C'est
en fait,
ça.
C'est un peu l'idée, quoi.
Donc, moralité, on s'abstient des jugements et des commentaires sur les corps des autres, sur les façons de s'habiller, sur t'as pris du poids, t'as perdu du poids, sur ça te va mieux.
En ce
moment, je m'en tape des dizaines par jour. Voilà, et j'ai même eu un message d'une personne qui me disait en fait, tu te montres trop depuis que tu as perdu du poids. Et donc, en gros, ça veut dire que tu valorises la perte de poids, je sais pas quoi. Et en fait, je me disais, c'est fou. Parce que j'ouvre ce DM-là. Et le DM d'avant, c'est une nana qui me dit, voilà, moi, je fais 100 kilos, je porte du 48, et vraiment, tu m'as aidé à porter des couleurs, machin, etc. Et je dis, mais en fait, tout est question de perspective. La vie des autres et la vie des autres, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour une personne, cette story, ce post, etc., va avoir tel retentissement.
Un sens.
Et pour d'autres, pas du tout. Au contraire. Donc, soit tu fais plus rien. Voilà. Et soit tu te dis, ce que je fais, en fait, ça me fait kiffer, ça fait sens, c'est en lien avec mes valeurs.
Et le message, il va être compris à un moment par quelqu'un, et même s'il n'est pas compris par tout le monde,
on peut pas plaire à tout le monde.
Voilà, ça c'est. Ouais, c'est dur. C'est dur à intégrer, mais ouais, c'est la vérité.
Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui.
On est en mode de citation.
Ouais, j'avoue, c'est dit.
Qu'est-ce qui nous arrive? On est très philo là.
Quotation en anglais.
Ouais.
J'ai beaucoup d'autodérision sur moi, sur l'anglais.
Je
suis fascinée par les gens qui parlent. Déjà, l'anglais, c'est pas mal, mais plusieurs langues. Donc vraiment, ça me fascine. Moi, vraiment, je.
Mais tu essayes. Je trouve de c'est plus bien. En plus.
Hey, quotation, c'est ça, non?
Quotation.
Ah, c'est pas ça, mon Dieu.
Quotation, ouais.
Oh, j'avais pas l'accent, mais là, on chipote, non?
Oui, c'est bien.
Il y a de l'idée. Et justement, est-ce que toi, au fil des années, t'as la sensation de t'être affranchi du regard des autres? Qu'est-ce qui t'a aidé?
Non, pas du tout. Non, parce que je suis sur les réseaux sociaux, donc je m'affranchis de rien du tout. Au contraire, je vais dans la cage des lions tous les jours.
Ça te touche autant?
Ça dépend quoi. Ça dépend. En fait, ça va me toucher plus, du coup, aujourd'hui que j'ai quand même une communauté autour de moi et tout, ça va plus me toucher pour les gens qui me suivent que pour moi, par exemple, quand je reçois des commentaires grossophobes, etc. Alors que moi, je me considère pas... pour moi, j'ai un poids normal, mon bilan sanguin est très très bon, tout ça. Et quand je suis face à des personnes qui sont vraiment dans de la grossophobie pure, qui me disent que je prône l'obésité ou je ne sais quoi... je me sens mal pour les personnes qui vont lire leurs commentaires à eux. C'est pour ça que j'essaie de les supprimer un maximum. C'est pas parce que moi, ça me touche, mais ça va me toucher en fait qu'une jeune fille, peut-être de 17-18 ans, qui a la même morpho que moi, se dise « Ouh là là, ça veut dire que je suis obèse. Ouh là là, ça veut dire que nanana. » Alors que...
Je suis en mauvaise santé.
Voilà. Et là, franchement, ça va me toucher, ça va me saouler. Là, récemment, encore tout à l'heure, il y a un mec qui disait, il y a un commentaire qu'on a eu sous une vidéo qu'on a fait avec Tania, je sais pas si tu vois qui c'est, où il y a un mec qui disait, les gros boudins, des trucs comme ça. Moi, je m'en fous, mais je me dis, il y a quand même des nanas qui vont lire ça et qui vont, du coup, se dévaloriser, peut-être, en lisant ces trucs-là, parce qu'elles vont s'identifier à ma morphologie, mon type de corps, elles vont avoir le même. Et là où moi, je vais les aider justement à se dire c'est encore totalement normal et t'as pas besoin de te flageller parce que t'as du gras au bide ou quoi que ce soit. Ce genre de truc-là, ça tue tout mon travail finalement.
Ouais. C'est ça, c'est que t'es dans un... T'es en combat, quoi. C'est un combat.
Ça devrait tellement ça, pas l'être. C'est horrible. Oui,
mais c'est vraiment ça, en fait.
Ouais. C'est affligeant, franchement.
Tu milites pour quelque chose de totalement normal. c'est fou. Non, mais tu vois, tu milites pour quelque chose qui devrait être... Mais on en parle
naturel.
Souvent. Je veux dire, tu vois, nous, avec Mathilde, on est hyper engagés contre les violences faites aux enfants et tout, on se dit on doit se battre pour dire aux gens ne tapez pas vos enfants.
Ouais, enfin, c'est abusé.
C'est fou, mais c'est tellement nécessaire. Enfin, aujourd'hui, je pense que ce que tu fais, ça a beaucoup de sens pour beaucoup de personnes. Et bien sûr, les commentaires et tout. Et j'imagine que même c'est difficile parce que même si ça t'atteint pas, moi je le vois, ça fait 10 ans que je fais ça.
Ouais, c'est dur quand même d'en voir par centaines.
Le cerveau, c'est dur de faire partie de la catégorie des gens discriminés. Alors, déjà, en tant que femme, de façon générale, tu fais automatiquement partie de cette catégorie-là. Et je parle pas d'autres minorités, etc. Mais du coup, de fait, c'est ça, c'est des. Catégorie. Enfin, t'as l'impression d'être
dans une
classé, dans un truc, et du coup de subir ça, en fait, c'est de la discrimination.
Ah non, c'est abusé, mais c'est pour ça que j'en ai fait un post récemment. J'ai dit, c'est quoi votre problème avec le gras? Parce que moi, je me considère pas, encore une fois, comme une personne très grosse, ni mince, ni rien du tout. Juste un corps totalement, pour moi, lambda et normal, juste OK avec des gros seins. Mais du coup, j'ai poussé un coup de gueule sur le fait que avoir du gras, c'est pas c'est pas un handicap, on va pas mourir, tout va bien se passer. Et pour aussi essayer d'aider justement les meufs qui diabolisent ça aussi de leur côté, qui s'aiment pas parce que ces petits morceaux de gras un peu partout, pour les aider et leur dire il y a aucun problème avec ça, en fait c'est les autres qui en font un problème. Voilà, c'est un corps totalement normal,
c'est des corps quoi, il y a plusieurs corps et puis il y a aucun corps ne se ressemble.
Non. Oui, c'est ça. Donc
je pense qu'il faut même à un certain type de morphologie, etc.
Oui, mais en fait, c'est ça, tu peux t'identifier sans forcément qu'il y ait une connotation de normalité, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut sortir de cette idée de norme, parce que quand tu regardes ce qui est représenté en termes de morphologie féminine, et quand tu interroges la plupart des Françaises sur leur taille, par exemple, de pantalon, tu vois bien que la norme, elle n'est pas représentée, donc ça ne veut rien dire.
Oui,
c'est-à-dire que c'est une norme qu'on t'impose, mais ce n'est pas la normalité, dans le sens, ce n'est pas la moyenne. Donc,
et puis dans tous les cas, tu seras toujours le gros de quelqu'un, le maigre de quelqu'un d'autre. C'est, encore une fois, c'est vraiment... C'est abusé de devoir parler de ça, et
c'est
de
fou,
devoir
dire
aux gens que c'est pas grave, que ça va aller.
Vivez pour vous.
Vivez pour vous. Et puis, petites actions dans lesquelles vous vous sentez d'oser peuvent vous permettre de prendre confiance. Et moi, je le vois, tu vois, j'ai sorti des contenus sur même la mode et tout, un truc que je faisais pas du tout, mais parce que je prends plaisir à m'habiller, parce que je me sens... Enfin, ça me fait kiffer, quoi. Vraiment, il y a un côté où je prends plaisir... Et juste le fait même à un moment donné d'oser les couleurs, alors que dans mon style je suis plutôt neutre, tu vois, mais il y a eu une période où vraiment pour être ok avec mon corps et embrasser ce cheminement de bien-être à la fois pour ma santé pour le coup et vraiment pour ma santé mentale, je m'étais dit allez, il y a des couleurs qu'il faut
full couleur kiffer.
Full couleur, j'étais en rose, en rouge en permanence, c'est à cette période qu'on a créé Take Care d'ailleurs, et ça c'est toujours très coloré,
c'est la DA
et voilà, clairement
Take Care, en fait.
Mais aujourd'hui c'est vrai que moi je me reconnais beaucoup plus dans un style plus neutre, mais j'ai eu besoin de passer par là pour me dire que c'était ok et que j'avais le droit d'avoir des formes et tu vois et de porter de la couleur et tout, et j'ai eu des retours mais jamais je pensais que ça pouvait impacter autant. Mais parfois, des petits trucs que tu oses au quotidien, et ben, ça fait de grandes choses parce que tu te dis « Ok, ça s'est bien passé, je l'ai fait, ça s'est bien passé. »
Même ne plus, juste de soi à soi, ne plus éviter le miroir comme quelque chose qui te renverrait quelque chose de négatif ou quoi. Et puis ça, je crois que j'en ai déjà parlé, mais on se regarde, enfin, on n'est pas un ventre, un bras, une cuisse, un nez... une dent, un pied, enfin tu vois ce que
un
je
bouton.
Veux dire, on est de la tête aux pieds quelqu'un et on est souvent les seuls à se regarder dans le détail comme ça, à se scruter.
En vrai tout le monde s'en branle.
Le moindre pore de la peau, et il faut apprendre à se regarder dans son ensemble. J'ai le nez bougé donc je parle absolument du nez, c'est un enfer, je suis désolée.
On voit le
mais il faut se regarder dans son ensemble et pas dans le détail, quoi.
Exactement. Faites l'exercice chez vous. Dites-nous. Merci beaucoup Justine en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. On a tellement de choses encore à partager sur le corps, il y a beaucoup à dire, mais je sais que tu en partages déjà beaucoup sur tes réseaux, donc voilà, n'hésitez pas à retrouver Justine sur ses réseaux. Merci pour ce témoignage.
Merci
beaucoup
vous.
Et à très vite dans un prochain épisode. Bye bye.
Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé, ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.